À l'aube des années 90, le paysage radiophonique en communauté française est défini par le décret dit Monfils et le plan de fréquence de 1987. 261 radios privées sont reconnues, dont 225 disposent d'une autorisation d'émettre et se partagent 195 fréquences. Les partis libéraux ayant été relégués dans l'opposition, le ministre socialiste Valmy Féo convoque une série de tables rondes fin 1989 afin de préparer un nouveau décret sur l'audiovisuel. En toile de fond, l'introduction de la publicité sur les radios de la RTBF. Le groupement des radios indépendantes de Belgique, le GRIB, exerce un lobbying agressif afin que cette mesure voulue par le Parti socialiste soit compensée par l'octroi de fortes fréquences aux radios commerciales, ainsi que la possibilité pour elles de se développer en réseau sur l'ensemble du territoire. En réalité, ceux-ci se déploient déjà sur le terrain. Contact a alors 17 radios, Vers l'avenir 22, Nostalgie 10, RFM 8, Top FM 5, Métropolis 4, Énergie 2.
La valse des Watt, 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 Watt.
Chapitre 12. L'association pour la libération des ondes met la pression.
Une trentaine de radios associatives d'expression se retrouvent au sein de l'association pour la libération des ondes, l'ALO.
Guy Stukens, radios alternatives, membre du bureau de l'ALO.
C'est ça, il y avait donc une première période de travail intense de l'ALO, fin des années 70, début des années 80, qui avait débouché sur le décret de 81. Et puis après, ça s'était un petit peu endormi parce que déjà à l'époque, les radios avaient, je pense, beaucoup de problèmes d'existence qui fait qu'ils s'étaient surtout concentrés sur leur survie individuelle. Et puis on s'est rendu compte, effectivement, au milieu des années 80, qu'il y avait encore un gars en Wallonie, Jean-Michel Lauré, qui avait des contacts avec une série de radios associatives. Et à Bruxelles, une série de radios également, Air Libre, Radios Alternatives, Radio 1180, Radio Panique aussi, je crois, qui existait déjà à ce moment-là, qui avaient des contacts entre eux et qui formaient un petit groupe, qu'on pourrait appeler une branche bruxelloise de l'ALO, en tout cas un regroupement de radios d'expression, de radios associatives d'expression. Et donc, on a remis ces gens-là ensemble. Et on a recréé des instances, un conseil de gestion, etc., qui s'est réuni régulièrement, toutes les 3 semaines, parfois plus en fonction de l'actualité. Et c'était aussi le moment où on a, au niveau institutionnel, quand même pu replacer des gens. C'était l'époque de la fin du Conseil des radios libres et indépendantes, et qui a été suivi immédiatement par la création du premier Conseil supérieur de l'audiovisuel, où l'ALO avait donc au moins un représentant, plus des représentants dans les commissions techniques, ce qui était quand même non négligeable. Et donc, l'ALO a pu faire un travail d'information des radios associatives, etc. Un travail aussi au niveau juridique et, entre guillemets, de lobbying au sein du Conseil supérieur de l'audiovisuel, dans la mesure où une série de personnes, effectivement, c'était grosso modo une personne par radio associative, se réunissait pour discuter des choses qui, de l'actualité des radios, et également pour mettre au point des positions de l'ALO, pour défendre, etc.
Philippe Livreau, de Radio Panique, est un des moteurs de la nouvelle ALO. Il participera aussi à la fondation de la marque Europe à Ljubljana en septembre 1994.
L'ALO exerce une pression incessante pour obtenir la reconnaissance d'une nette distinction entre radio commerciale et radio non commerciale et le principe d'un partage équitable de fréquences entre les deux types de radios. Cela veut dire pour Bruxelles 1000 watts pour Contact, Fun et Nostalgie et 1000 watts pour Air Libre, Panique et Campus.
Mais reconnaître un statut spécifique pour les radios non commerciales n'est vraiment pas à l'ordre du jour du Conseil supérieur de l'audiovisuel, alors présidé par Robert Ouangermé. On se dirige plutôt vers des classifications des radios en fonction de leur implantation géographique, de leur puissance d'émission et de leur format.
Et c'est quand même quelque chose de symptomatique, c'est qu'il y a eu très peu de débats sur le contenu de la radio au sein de l'instance qui doit pourtant réguler le secteur, c'est-à-dire le Conseil supérieur de l'audiovisuel. Moi, j'ai l'impression, de ma petite expérience de groupe de travail au niveau du Conseil supérieur de l'audiovisuel, et aussi en entendant Jean-Michel Lauré, que la seule chose dont on a discuté en termes de radio, mais je pense d'autres médias aussi, c'est de fric. Comment faire plus de publicité au moyen de radio? Moi, j'ai entendu des discours lénifiants de la part de gens proches des réseaux, des régies publicitaires, disant « mais on n'utilise pas encore suffisamment la radio pour faire de la publicité, etc. » Le but, c'était de faire du fric avec la radio, quoi. Et contenu, de quoi vous parlez? De contenu, quoi. C'était vraiment ça. C'est des gens qui... Donc la plupart des acteurs de l'audiovisuel, la plupart des gens autour de la table au Conseil supérieur de l'audiovisuel n'en ont rien à cirer du contenu des moyens audiovisuels, de ce qui peut passer comme matière première. Et c'est vraiment catastrophique.
Panique catastrophique.
Panique castrafortique.
Mars 91. L'exécutif de la communauté française modifie les modalités d'octroi de la reconnaissance des radios privées. Il fixe quatre catégories de radios. Radio de quartier, 20 watts. Radio locale, 100 watts. Radio d'agglomération, 300 watts. Radio régionale, 1 kW. Avril 91. L'autorisation est accordée à la RTBF de diffuser de la publicité commerciale sur ces radios. Riposte de contact, ces radios commencent à émettre en stéréo.
Panhygiénique.
Marcel Auflair, Neu, 1988.
La relation humaine est paradoxale. Nul ne peut vraiment connaître l'autre puisqu'il n'est pas l'autre. Mais l'un et l'autre sont modifiés par le comportement réciproque. Ainsi, les relations se font-elles sur un certain nombre de malentendus, d'enchevêtrements, de blocages, générateurs de nœuds. Doit y avoir quelque chose qui cloche chez lui, sans quoi il n'agirait pas comme il le fait. C'est pourquoi s'il agit ainsi, c'est qu'il y a quelque chose qui cloche chez lui. Il ne croit pas que quelque chose cloche chez lui, parce que l'une des choses qui cloche chez lui, c'est qu'il ne croit pas que quelque chose cloche chez lui. C'est pourquoi nous devons l'aider à se rendre compte que le fait qu'il ne le croit pas est précisément une des choses qui cloche chez lui. Il y a quelque chose qui cloche chez lui parce qu'il croit qu'il doit y avoir quelque chose qui cloche chez nous. Pour que nous essayions de l'aider à voir qu'il doit y avoir quelque chose qui cloche chez lui, qui lui fait croire que quelque chose cloche chez nous, pour que nous essayions de l'aider à voir que nous l'aidons, à voir que nous ne le persécutons pas en l'aidant, à voir que nous ne le persécutons pas en l'aidant, à voir qu'il refuse de voir que quelque chose cloche chez lui, du fait qu'il ne le voit pas et ne nous est pas reconnaissant. D'au moins essayer de l'aider à voir que quelque chose cloche chez lui, du fait qu'il ne voit pas qu'il doit y avoir quelque chose qui cloche chez lui, du fait qu'il ne voit pas qu'il doit y avoir quelque chose qui cloche chez lui, du fait qu'il ne voit pas qu'il doit y avoir quelque chose qui cloche chez lui, du fait qu'il ne voit pas qu'il doit y avoir quelque chose qui cloche chez lui, du fait qu'il ne nous est pas reconnaissant de n'avoir jamais essayé de le faire se sentir reconnaissant.
Thank you.
La valse des watts, watt, 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 watt.
Chapitre 13. Cette toute petite goutte de retour du cœur. 19 juillet 1991, décret sur l'audiovisuel de la communauté française.
Les auditeurs veulent écouter les radios associatives et ils ne peuvent les capter. Quelle infortune!
C'est la faute au plan de fréquence.
T'es un peu au courant des histoires du plan de fréquence, la communauté française, ou tu suis pas
si... Un petit peu, et ça m'a l'air très compliqué et très politique. Donc j'ai l'impression que pour avoir une bonne fréquence, ou bien il faut avoir beaucoup d'argent, ou bien il faut être copain avec certaines personnes, quoi. Ça, c'est mon impression.
Frédéric Antoine, professeur à l'Université catholique de Louvain.
L'État, quand il répartit des fréquences, gère une ressource rare. Il répartit une ressource rare entre une série de demandeurs et d'opérateurs. Donc là, il remplit un rôle de distributeur de l'espace public, quoi. Donc là, on pourrait espérer et souhaiter que toute personne demandant à pouvoir participer à la gestion de cet espace public ait droit à des fréquences au même titre et de même qualité que d'autres opérateurs.
Du côté des radios associatives, il y a eu une revendication présente depuis une quinzaine d'années, à savoir qu'elle soit reconnue officiellement par la communauté française, en ayant avec un statut spécifique comme radio associative ou quel que soit le nom générique qu'on leur donne. Et de manière aussi constante, le pouvoir politique, les pouvoirs politiques ont toujours refusé d'accepter de définir un statut spécifique des radios d'expression, des radios associatives. Est-ce que vous pouvez expliquer la raison de ce refus perpétuel, disons ?
Henri Ingberg, secrétaire général de la communauté française.
Ben d'abord une rectification. Dans les précédents textes de décret, il y a à peu près une dizaine d'années, on avait effectivement une description par catégorie des différents types de radios. Et dans cette nomenclature, dans cette description de radio, figurait effectivement une catégorie spécifique radio associative. Et donc, elle existait dans un arrêté qui prévoyait expressément leur reconnaissance, étant donné justement leur originalité. Donc, quand vous dites « cette dimension a été, vous avez employé le mot, perpétuellement niée », pardonnez-moi, ce n'est pas tout à fait exact.
Je voulais dire reconnaissance d'un statut spécifique par rapport...
Et donc un statut, ça veut dire qu'on avait les premiers éléments du statut dans cet arrêté en disant on fait une catégorie à part et on doit laisser des fréquences attribuées à ces radios associatives parce qu'elles font partie du paysage. Lorsque vous dites maintenant on n'a pas donné un statut, je pense que concrètement, et là on sera bien d'accord, concrètement vous voulez dire on ne leur a pas donné d'argent. Pour fonctionner.
C'est une conséquence
Non. Non, là-dessus, mais nous pouvons avoir des opinions divergentes. Hein, c'est la caractéristique aussi de l'échange que vous provoquez. Non, je pense vraiment que non seulement ça figurait dans des textes, mais que le fait que c'était dans des textes était le résultat délibéré d'une préoccupation politique.
Frédéric Antoine.
Ce qui semble vrai, c'est que dans le décret de 91, on voit apparaître la notification d'identité des commerciaux en disant que il peut y avoir une sorte de petit réseau de radio qui peuvent compter jusqu'à 5 fréquences. Vu qu'on dit qu'une personne physique ne peut détenir plus de 24% du capital de plus de 5 radios privées, ni avoir une participation dans plus de 5 radios privées. Donc, c'est maximum 5. Quoi. Donc, c'est un moment où on définit en tout cas ce qui pourrait être l'embryon d'un réseau. Mais il faut quand même aussi dire que c'est dans le décret de 91 qu'on parle notamment de radios associatives d'expression. Donc, en tout cas, si le deal est de type commercial, il y a quand même une petite note qui ouvre la réflexion au-delà de simplement la sphère commerciale. C'est peut-être ça, la toute petite goutte de retour du cœur qu'on trouve dans...
Sans pour autant reconnaître un statut spécifique.
Mais il n'y a jamais de statut spécifique. C'est-à-dire que le décret dit bien que l'exécutif peut classer les radios en différentes catégories, géographiques, techniques, culturelles, qu'il détermine, hein, en veillant notamment à permettre l'existence de radios associatives d'expression. C'est dit explicitement dans le texte. Je crois que c'est la seule fois où on a une trace de l'évocation de cette catégorie de radio. Mais c'est vrai que les modalités ne figurent pas de manière précise dans le texte du décret. Et s'il n'y a pas de mode d'application après, ben on reste au niveau des bons sentiments. Quoi, ça.
2 septembre 91, début de Bell RTL. Clé de voûte du réseau, la société Inadi, dont l'actionnariat est composé à 46% par Rossel et 54% par la société TVI Radio. Budget 85 à 100 millions.
Ainsi, sur le terrain, y a-t-il déjà infraction par rapport au décret quant à l'interdiction pour une société de détenir plus de 25% du capital de plus de 5 radios ?
Et que personne ne l'oublie.
C'est pas une histoire, c'est pas le gros qui mange le petit en général. Mais il y a des petits qui sont durs.